Culture de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, et malgré les vacances scolaires qui se poursuivent, bien Cœur de Patrimoine vous est fidèle et je vous offre ce matin de réécouter quelques-unes des interviews les plus marquantes des semaines passées. Au programme, on va parler IA. Il y a quelques semaines, c'était la découverte de Figenai, une IA destinée à la gestion de patrimoine, et bien aujourd'hui c'est la gestion de patrimoine qui se penche sur l'intelligence artificielle. Vous saurez tout dans un instant. Ensuite, un peu de fiscalité, vous allez me dire encore, mais c'est vrai que c'est une constante en France quand on cause de patrimoine. Et puis, on prendra aussi les chemins de traverse pour découvrir quelques façons particulières d'investir en immobilier. C'est parti pour Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et comme promis, on va donc s'intéresser à l'intelligence artificielle. On reçoit deux experts, membres de la CNCGP, qui président à la commission de l'IA à la CNCGP. Sandrine Genet, bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et Vincent Courroyer, bonjour Vincent.
Bonjour Cédric.
Merci à tous les deux d'être là. Édition d'un guide, c'est devenu une spécialité de la CNCGP. On avait reçu Pascal Bossan ici même pour parler un petit peu de tout ce qui était ESG, développement durable, etc. Et là, maintenant, on va parler d'IA. Alors, déjà, peut-être, plantons le décor. Sandrine, pourquoi ce guide, entre guillemets, quel est l'objectif de ces quelques pages à destination, on le rappelle, de vos petits camarades, des adhérents de la CNCGP qui vont tout savoir grâce à ce petit guide?
Bah peut-être justement, finalement, un guide, on le pose sur son bureau et ça permet de l'avoir en tête et d'y penser plus régulièrement. Notre idée au sein de la CNCGP, c'était de donner envie, je pense, tout d'abord au CGP de se pencher sur ce sujet, de se l'approprier. Et donc, on a essayé de faire un guide relativement pratique avec des conseils. Le maître mot en IA, un des maîtres mots, c'est le prompt, c'est-à-dire la façon dont on va déléguer à l'IA une tâche comme on pourrait finalement au quotidien la déléguer à une personne de son équipe. Comment est-ce qu'on pose les bonnes questions? Comment est-ce qu'on donne les bonnes directives? Donc il y a une volonté, un, de donner envie, de dire c'est pour tout le monde, c'est accessible à tous. La deuxième chose, c'est de donner des bonnes pratiques, de donner des idées de comment améliorer la qualité de la restitution qu'on obtiendra de l'outil. Et puis également quand même de fixer un cadre pour amener quelques points de vigilance sur lesquels on pense que il est important que les CGP soient informés pour pouvoir travailler en sécurité aussi sur tous ces sujets.
Bon, alors c'est pas casse-pied, hein, c'est hyper didactique, c'est illustré, etc. Donc c'est pas une somme de leçons. Comment est-ce qu'il peut aider finalement, Vincent, les conseillers à intégrer l'IA, parce que j'imagine que tout le monde s'est amusé depuis quelques années à aller titiller ChatGPT ou autre pour lui demander quelques considérations sur votre métier.
Alors justement, on l'a voulu sous forme de guide pour qu'il soit présent à chaque instant, qu'il puisse le consulter quand ils en ont besoin. Et on a voulu expliquer, en tout cas donner quelques pistes de réflexion autour de l'IA, c'est quoi? En général, c'est quoi? Parce que c'est qu'il y a plusieurs formes d'IA, et à chaque fois qu'on va utiliser l'IA dans le quotidien, bah effectivement, ça va nous aider dans le quotidien, ça va nous aider à aller plus vite. Et puis, il peut y avoir des IA plus professionnelles, soit pour nous aider dans notre métier en tant que chef d'entreprise, en tant que CGP, nous sommes des chefs d'entreprise, voire nous aider dans notre quotidien en tant que conseiller en gestion de patrimoine, pour apporter toujours un meilleur conseil, plus adapté, plus approprié auprès de nos clients.
Alors justement, vous le dites, pour tout à chacun, souvent c'est ChatGPT ou maintenant il y en a quelques-uns qui émergent aussi, mais dans le monde professionnel, les IA, elles sont multiples.
Alors j'ai envie de dire qu'on est un petit peu comme Monsieur Jourdain, on utilise l'IA sans le savoir. Puisqu'aujourd'hui, les IA sont dans nos outils sans qu'on s'en rende compte, puisque c'est une évolution, c'est un outil technique qui a été déjà implanté par petites touches, voire par touches plus importantes. Vous en parliez tout à l'heure d'une nouvelle IA qui rentre, et qu'on l'utilise au quotidien déjà sans le savoir. Mais c'est important.
Mais il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres dans votre monde à vous?
Alors, l'IA, en fait, elle est diverse. L'intelligence artificielle va dépendre de quel est l'objectif que l'on a. Si on veut s'interroger sur où je pars en vacances l'année prochaine, eh ben très bien, l'IA va vous proposer votre tour à Ibiza. Si vous voulez que l'IA vous interroge sur « Donnez-moi une synthèse de la loi de finances 2025 », l'IA va vous faire une très belle synthèse qui va vous aider à la comprendre. Et après, il y a des IA plus complexes, plus qui vont se baser sur notre métier, sur l'expérience de notre métier, et qui vont nous aider dans une préconisation patrimoniale, une recherche de jurisprudence dans telle et telle action. Il faut savoir que l'IA se base sur l'expérience. Oui. On dit toujours une IA est entraînée, elle est entraînée par des situations, des environnements, des cas. Et c'est ça, en fonction de qu'on va l'utiliser, qu'on va pouvoir savoir laquelle utiliser.
Votre métier, il est quand même très particulier, hyper spécialisé. Il a besoin d'une précision hors norme sur une foule de textes, de jurisprudence, de. Enfin bon, voilà, on va pas faire le panégyrique de la gestion de patrimoine, mais j'imagine que c'est autant de défis pour une IA et pour les pros vis-à-vis de cette IA. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'elle se gourre, faut qu'elle ait les bonnes références, faut qu'elle ait appris les bonnes références, j'imagine, non?
Et oui, mais comme le disait Sandrine tout à l'heure, il faut qu'on pose la bonne question, ce prompt, ce nouveau mot qu'on utilise. Et il est extrêmement important de savoir rédiger un prompt, de savoir expliciter sa demande, quelle que soit l'IA, pour que la réponse soit la bonne.
Et puis, peut-être en Sandrine. Complément, on peut dire aussi que il faut s'assurer que l'outil qu'on utilise est à jour. Par exemple, Vincent citait tout à l'heure l'exemple de la loi de finances. Voilà, il faut s'assurer que les sources qui sont utilisées par l'outil viennent bien puiser dans les dernières mises à jour. Donc ça, c'est très important.
Mais parce en que fait, je le disais, on l'a tous fait, et moi le premier. Quand ChatGPT est arrivé, je lui ai posé quelques questions sur la gestion de patrimoine, et ne serait-ce que sur les taux des livrets. À cette époque-là, je me souviens qu'il m'avait donné des taux qui n'étaient pas les bons.
Absolument. Donc il faut vérifier les sources, et maintenant, c'est des choses qu'on arrive à trouver plus facilement dans les outils qu'on interroge. On peut lui demander, par exemple, donne-moi une réponse, mais en me citant les sources. Donc ça, en fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, c'est une expression qu'on utilise depuis longtemps dans le management. C'est un peu pareil avec l'IA. Ça n'exclut pas d'aller vérifier ses sources.
Il faut pas manger tout cru.
De les croiser. Voilà. Ouais. Au contraire, même, c'est même une règle de ne pas manger tout cru et de vraiment s'assurer, avec son bon sens et son expertise personnelle de CGP, que les éléments qu'on récupère sont qualitatifs et sont fiables.
Tiens, puisons dans votre expérience, justement. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner, nous démontrer, par l'exemple, on va dire, un cas dans lequel l'IA vous a aidé, simplifié les choses, ou ça a amélioré votre gestion de patrimoine?
Oui, je peux donner un exemple très concret qui va peut-être faire rêver beaucoup de cabinets de conseils en gestion de patrimoine, puisqu'on a utilisé l'IA, et notamment ChatGPT, dans une version payante, pour pouvoir générer un code qui nous aide à aller chercher des données de clients qui sont dans un fichier Excel et à les faire basculer dans un PDF remplissable pour des campagnes d'arbitrage auprès de compagnies d'assurance. Donc au niveau de l'IA, on met pas les noms des clients, on met pas les données des clients, mais on lui met la structure du fichier et on lui demande de nous générer le code qui va permettre de le basculer en PDF. Et une fois qu'on a récupéré le code, on le déploie.
Donc bon, ça donc a là, permis. Clairement, il aurait fallu que quelqu'un s'y colle.
Il aurait fallu
pendant
quelqu'un
une certaine
soit...
de journée.
Voilà, quelqu'un qui a des compétences en code, ce que nous n'avons pas forcément au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple très pratique. On peut citer des choses beaucoup plus classiques, des préparations de compte rendu de rendez-vous clients, par exemple, qui peuvent se faire très facilement aussi par le biais de l'intelligence artificielle.
Mais ça veut dire que ça va remplacer certaines tâches humaines ou ça va remplacer certains humains?
Alors, on peut dire que ça va remplacer sans doute les tâches les plus rébarbatives et répétitives. Et ça, je pense que personne ne s'en plaindra. Parce qu'à tous les niveaux de nos cabinets, on a une capacité à apporter de la valeur ajoutée sur le service, sur la réactivité, sur l'accompagnement des clients. On a une phrase qu'on a utilisée dans le guide et qu'on aime bien, parce qu'on dit souvent « l'IA va te piquer ton job », et c'est de dire « l'IA ne piquera pas le job », mais quelqu'un qui sait utiliser l'IA pourra, oui, te piquer ton job. Donc, c'est vraiment important pour nous tous, conseillers en gestion de patrimoine,
de
passer cette marche pour pouvoir utiliser selon notre quotidien.
On utilise aussi une expression qu'est le conseiller augmenté. Ça nous permet de gagner du temps dans la relation avec nos clients. Tout le temps qu'on pouvait faire à rédiger une présentation, à rédiger une synthèse, l'IA va le faire et donc on aura plus de temps à consacrer à nos clients. Donc, au contraire, je pense que c'est un outil pour soutenir notre croissance qui est tous... qui est forte.
Sandrine a très rapidement évoqué le nom du client. Et donc là, on a mis le doigt dans la confidentialité. C'est vrai que on dit tout le temps, enfin quand on parcourt le net et qu'on essaie de suivre un tuto pour appréhender cette IA, on nous dit toujours attention, mettez surtout pas de données de la boîte, mettez pas d'informations confidentielles, parce que sinon, bien évidemment, en posant la même question, votre concurrent il va peut-être récupérer vos réponses. Comment on la gère, justement, cette question de la confidentialité, de la sécurité des données, parce que c'est sensible quand même, vos clients, ils n'ont pas forcément envie que tout le monde puisse savoir, monsieur Intel, ce qu'il possède et quelle est sa stratégie patrimoniale.
C'est très intéressant comme question. Alors, on l'a évoqué dans le guide, vous avez plusieurs sortes d'IA, vous avez des IA généralistes. Il faut savoir qu'il me semble que ChatGPT, les données s'arrêtent à 2022. Donc ça veut dire que il n'y a pas de données nouvelles depuis cette date-là. Et puis il y a des IA propriétaires. Et dans ces IA propriétaires, effectivement, là, on va pouvoir se retrouver face à cette problématique de données et de confidentialité de données. Problématique qu'on a d'ores et déjà. Dans tous les outils métiers, aujourd'hui, on est soumis à RGPD, on est soumis à expliquer à nos clients où sont nos données. Et donc, ben, c'est exactement la même chose avec l'IA. Donc, quand on va utiliser un nouvel outil ou un outil existant qui aura impliqué de l'IA, je pense au gel des avoirs ou la lutte anti-blanchiment, et qu'on mettra des éléments clients, on sera dans le cadre des RGPD. Mais il y a un deuxième cadre qui est bien plus important, qui est bien plus puissant, qui est en train d'être implémenté, qu'on appelle l'IA Act. L'IA Act définit les typologies d'IA, définit les rôles d'IA, les déployeurs, les attributeurs, des mots un petit peu compliqués qui sont là, et à chaque fois, il va définir les obligations.
Finalement, on construit ce monde aussi.
On reconstruit ce monde. Vous savez qu'il y a des domaines où l'IA est interdit. La santé, l'IA va être interdit. Tout ce qui est infrastructure stratégique, l'IA sera interdit ou sera complètement réservé aux militaires. Et à chaque fois, nous aurons nos responsabilités. C'est-à-dire que quand on utilisera un outil, il faudra bien s'assurer que notre prestataire respecte les critères de sécurité, puisque quand on va injecter les données de nos clients, eh ben on en sera responsable.
Comment est-ce qu'il aide ce guide à différencier notamment les solutions d'IA open source, on va dire, des solutions propriétaires, et pourquoi c'est important de savoir faire le tri? C'est justement pour qu'on connaisse bien le rôle que chacun occupe.
C'est l'idée de notre guide, en fait. Un guide, c'est de donner quelques idées, quelques astuces pour gérer un petit peu tous ces noms qui foisonnent. Il y a les IA généralistes qui ne font que de donner une réponse à une question. Il y a les IA génératives qui vont générer un rendu qu'on va pouvoir utiliser dans notre métier ou dans notre vie personnelle. Mmh. Et puis, il y a les IA propriétaires qui, là, seront... aujourd'hui, vous pouvez souscrire à ChatGPT et entraîner ChatGPT sur vos données et pour vous donner des réponses par rapport à votre environnement. Et à chaque fois, on a donné quelques noms d'exemples et quelques thèmes d'utilisation avec tel ou tel IA.
Après, c'est vrai que beaucoup d'outils sont gratuits. C'est un peu le principe de l'IA. C'est un exercice, effectivement. C'est exercer la machine. Et donc, c'est le principe de l'open source. Chacun contribue par ce qu'il indique, les réponses qu'il donne aussi, aux réponses qui sont proposées par l'IA. Donc, il faut savoir souvent que quand c'est gratuit, en fait, on travaille aussi pour le monde, en fait. On travaille pour améliorer l'outil.
Quand donc, c'est gratuit, c'est qu'on est omnu.
Oui, d'une certaine façon. Et donc, on a moins de confidentialité, on le comprend bien. Donc, il faut toujours se poser la question, au moment où on va utiliser un outil, quel qu'il soit en IA, de se dire, est-ce que cet outil, je le paye, est-ce qu'il est gratuit, est-ce que ça reste chez moi ou est-ce que ça part chez les concurrents, mais c'est même pas forcément les concurrents le sujet. C'est est-ce que je le mets sur la place, du marché, quoi, sur la place publique.
Quel conseil on peut justement donner à un CGP qui peut-être aujourd'hui, à part avoir demandé quelques trucs par-ci par-là à ChatGPT, n'aurait pas encore vraiment franchi le pas et qui se dirait aujourd'hui je veux commencer à utiliser l'IA dans mon boulot?
Alors, on en donne quelques-uns dans le guide, hein, puisqu'on a fait à la fin du guide quelques interviews de professionnels pour leur demander aussi un peu leurs trucs. Je pense qu'il y a des sujets de formation. Donc, commencer par se former, c'est quelque chose qui semble assez évident. Il y a une offre assez pléthorique aujourd'hui d'intervenants. Ça, c'est une première base. Sans doute aussi, malgré tout, quand on a une équipe, mettre en place une charte d'utilisation de l'IA, parce qu'il faut faire attention à comment les collaborateurs utilisent. Moi, je trouve que, en fait, démarrer par son cas personnel et par des sujets personnels, c'est la façon la moins intimidante de démarrer l'IA. Alors, tout à l'heure, Vincent parlait des vacances à Ibiza. Ça regarde que lui, mais je trouve que finalement, utiliser l'IA On peut les utiliser pour tout, pour avoir des idées, pour faire des cadeaux à son fils adolescent, pour écrire une lettre de remerciement. Il y a plein de sujets. Et donc, en fait, plus on va l'utiliser dans notre quotidien, même personnel, plus ce sera facile de l'utiliser d'un point de vue professionnel. Après, il y a des petites choses aussi qui existent et qui sont intéressantes, des dispositifs. Nous, on a fait appel, par exemple, à un dispositif qui s'appelle IA Booster, qui est un dispositif mis en place par la BPI et qui permet, avec des experts qui sont assermentés, entre guillemets, de faire une sorte d'audit interne de la structure et de déterminer quelles seraient les premières applications simples pour pouvoir implémenter de l'IA chez soi. Le risque, c'est de vouloir faire trop gros tout de suite et puis d'y perdre un peu son temps, son énergie. Voilà. Et là, d'aller trouver des applications simples pour pouvoir démarrer facilement.
Justement, pour conclure, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Ça va se multiplier, ça va se démultiplier, l'IA sera exponentielle, y compris pour ce monde de la gestion de patrimoine?
J'ai envie de dire, l'IA, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Donc, il faut y aller à fond. Effectivement, faut commencer par la formation, faut commencer petit pour appréhender. Il faut y aller, parce que c'est effectivement un élément qui va changer notre vie, qui va continuer à soutenir notre développement. Et ça, c'est important à faire, dégager du temps pour notre valeur ajoutée, qui est toujours la relation avec les hommes. Elle va venir nous, et les femmes, elle va venir compléter notre dispositif. C'est hyper important de ne pas aller contre, parce que sinon, comme je reprends la petite phrase, peut-être qu'il y a des gens qui iront avec et qui nous remplaceront. Ouais.
Alors, guide à quatre mains, enfin, ou un peu plus, mais ce matin, il était présenté à quatre mains. En conclusion, quel message clé on passe à vos petits camarades, mais pas que, hein, les autres qui ne seraient pas forcément SNGP, ils peuvent le lire aussi. Hein.
Ah, je sais pas si ils peuvent le lire. Le message qu'on passe, c'est que c'est pour tout le monde, en fait. Ouais. Il peut y avoir une espèce de frein personnel de certaines personnes qui se disent « je suis pas très technologie », etc. C'est simple d'utilisation, c'est facile. Donc, le message, c'est lancez-vous, utilisez-le, et vous verrez qu'il vous aidera beaucoup dans votre quotidien.
Alors, le titre, c'est un prompt, c'est normal. Proposer un guide sur l'IA, clair, concis et ludique aux professionnels de la gestion de patrimoine généré. Voilà, c'était signé donc Sandrine Genet et Vincent Courroyer pour la CNCGP. Merci à tous les deux d'avoir été présents et d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
À bientôt, merci Cédric.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on accueille à présent Aurélie Alamijon. Bonjour Aurélie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous, ingénieur patrimonial chez Natixis Wealth Management. Et on va parler fiscalité. Bah oui, difficile de ne pas parler fiscalité quand on parle de gestion de patrimoine en France, et notamment de loi de finances et des incidences de cette loi de finances. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup fait parler. On est largement revenu sur cette loi de finances il y a quelques jours, et vous pouvez toujours réécouter le podcast avec Jérôme Barré chez Yards, qui nous avait détaillé un petit peu toute cette loi de finances. Et nous, on va s'intéresser aux dirigeants, avec les questions qui peuvent se poser pour les chefs d'entreprise qui envisagent de vendre en 2025 des titres de leur société. D'abord, voilà, en découvrant cette loi de finances, est-ce que vous êtes dit « Oh là là, il va falloir que je revoie tout mon manuel de vol, finalement mes réflexes doivent changer ».
Alors en fait, non, pas vraiment. Parce que quand on se préoccupe de la cession d'une entreprise, on commence toujours, et ça sera toujours le cas en fait, par essayer de chiffrer et d'anticiper le montant de la fiscalité qui va grever la plus-value sur la cession des titres. Parce qu'il faudra la provisionner et la quitter. Donc ça ne change pas. Modulo, ce dont on va parler, le niveau de pression fiscale qui a effectivement évolué de par cette loi de finances. Et puis d'autre part, parce que selon les objectifs en fait du candidat à la cession d'entreprise, qui peuvent être notamment à l'occasion de cette vente, d'anticiper la transmission du patrimoine, pourquoi pas au profit des enfants, ou redéployer après la vente une activité économique via une société soumise à l'impôt sur les sociétés, on va toujours avoir de la pertinence pour les schémas préparatoires, ce dont on parle dans notre quotidien à nous du patrimoine, c'est-à-dire la donation d'une fraction des titres avant la vente ou l'apport d'une partie des titres à une société à l'IS que l'on contrôle pour être en report d'imposition. Donc ça ne change pas. Ce qui va en revanche changer, c'est le niveau de pression fiscale, puisque avec cette loi de finances pour 2025, on a une nouvelle contribution, qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus, CDHR, qui va s'appliquer pour les revenus de 2025 à ceux à l'égard de ceux des contribuables en fait qui disposent de revenus importants, Dont l'objet en fait est de d'assurer en fait que ces personnes subissent une imposition minimum de 20% sur ces revenus-là. D'accord. Avec un calendrier de paiement de cette contribution un petit peu spécifique dès 2025.
Voilà donc pour le cadre dans lequel vous évoluez désormais. On le disait, on va s'intéresser donc à ces dirigeants qui vont ou qui voudraient vendre. Quand on cède les titres, du coup, qu'est-ce qu'on déclenche comme fiscalité ?
Alors, on va déclencher une fiscalité globale qui se décompose en fait en quatre impositions. Il y aura tout d'abord l'impôt sur le revenu à proprement parler, les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, prélèvements sociaux, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, éventuellement, et éventuellement, la petite dernière, la contribution différentielle sur les hauts revenus.
Est-ce qu'il y a des changements pour l'IR ?
Alors, pour l'impôt sur le revenu, non, à quelques ajustements près dont je vais vous parler. Le principe, en fait, comme toujours, qui n'a pas été remis en cause, c'est une soumission, en fait, de la plus-value sur cession de droits sociaux, sur cession de titres, à l'impôt sur le revenu, à un taux forfaitaire de 12,8%. On appelle ça le prélèvement forfaitaire unique. Bien sûr. Donc ça n'a pas changé, le taux n'a pas évolué, et la base taxable non plus, puisqu'on prend en compte, pour ce taux de 12,8%, l'intégralité de la plus-value, et on n'a pas d'abattement pour durée de détention. Par exception, le contribuable peut choisir à la place de ces 12,8% de soumettre cette plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Notamment parce qu'il pourrait avoir un intérêt, si les conditions sont réunies, de bénéficier d'un abattement pour durée de détention des titres. Il y en a notamment un qui est assez avantageux, qui est un abattement de 85%, ce qui fait que, au terme de 8 ans de détention, ce qui fait que seulement 15% de la plus-value sera taxable au barème progressif. Mais ça, la condition notamment, c'est que les titres qui sont vendus aient été acquis avant le 1er janvier 2018. Donc ça, c'est une première chose. Petite nouveauté, c'est quand même le fait que un abattement complémentaire, un autre abattement forfaitaire, cette fois-ci de 500 000 euros pour les dirigeants de PME qui cèdent leur entreprise dans le contexte de leur départ en retraite. Eh bien, cet abattement en fait est venu à expiration au 31 décembre 2024, et là, la loi de finances pour 2025 l'a prorogé jusqu'en 2031.
D'accord.
Mais à part ça, voilà, c'est tout.
Ensuite, on a les prélèvements sociaux.
Oui.
On a la contribution exceptionnelle sur les revenus. Là, rien de nouveau non plus ?
Alors, pas de changement non plus pour les prélèvements sociaux. Ils sont toujours dus au taux global de 17,2 sur l'intégralité du gain, même si pour l'impôt sur le revenu, on a opté pour l'IR, pour le barème progressif, et qu'on a pu bénéficier d'abattement pour durée de détention. Pour les prélèvements sociaux, on va les calculer sur une plus-value brute, c'est-à-dire avant abattement. On a même si si on a opté pour le barème progressif pour la partie impôt sur le revenu, on a droit à bénéficier d'une quote-part de déductibilité de CSG. Une partie de la CSG qu'on aura acquittée sera déductible du revenu global de l'année suivant celle de la vente. Donc ça ne change pas. Et la contribution exceptionnelle sur les revenus ne change pas non plus. Pour rappel, c'est une contribution qui existe maintenant depuis une petite quinzaine d'années.
C'est pour ça qu'elle était exceptionnelle.
Exactement. Tout à fait. Elle concerne les contribuables seuls qui ont un revenu fiscal de référence, c'est-à-dire en gros le revenu net imposable majoré de certains éléments qui excède 250 000 euros. Pour les personnes en couple soumises à une imposition commune, 500 000 euros. Elle est due selon un taux qui est un barème qui est progressif. Il y a une tranche à 3% et un taux marginal à 4%. Et cette contribution non plus n'a pas changé. Elle est due sur l'intégralité du gain, de la plus-value.
Bon, quand on passe à la caisse, qu'on fait la douloureuse, on arrive à quelle pression fiscale ?
Alors, si on agrège tous ces éléments, donc on a 12,8% pour l'impôt sur le revenu, à proprement parler, 17,2% pour les prélèvements sociaux. Donc là, ça nous fait les 30 de la fameuse flat tax. Plus, si on considère le taux marginal de la CEHR, on a 4, donc ça nous fait 34%. On peut même avoir un peu moins, même beaucoup moins, 27-45% si on a pu se prévaloir de l'abattement pour durée de détention de 85% dont je parlais tout à l'heure.
D'accord.
Donc c'est quand même avantageux, mais ça c'est avant la
CEHR. Oui, c'est avant la nouvelle année. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ?
Alors cette contribution en fait différentielle sur les hauts revenus, c'est une contribution qui déjà a pour vocation de ne concerner que les revenus 2025. Donc déjà, les revenus 2024 ne sont pas concernés, alors que dans les premières moutures du projet de loi de finances, avant adoption du texte définitif, les revenus 2024 étaient concernés. Après, l'avenir, au-delà de 2025, on ne sait pas, on verra bien. En fait, cette contribution...
Il n'y a pas marqué exceptionnel, donc elle va rester, celle-là, normalement.
Elle est différentielle. Ouais. Voilà, ce n'est pas la même chose, mais bon, on verra bien. L'avenir nous le dira.
Elle concerne tout le monde ?
Alors non, elle concerne les contribuables qui sont déjà résidents au plan fiscal de France et qui surtout disposent de hauts revenus. C'est-à-dire qu'on va regarder leur revenu fiscal de référence au sens de la CDHR. C'est-à-dire qu'on va prendre le revenu fiscal de référence qu'on utilise pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, et on va l'ajuster. Et si ce revenu de référence CDHR excède 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour des personnes soumises à imposition commune, on est susceptible de le déclencher. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'idée de cette contribution, c'est de soumettre ces contribuables qui disposent de hauts revenus, en fait, à une imposition minimum de 20% au titre de leur seul impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de tout ça dans l'équation des prélèvements sociaux ?
Alors, les prélèvements sociaux, en fait, on n'en tient pas compte dans cette équation. Hein, c'est-à-dire qu'on va, d'une part, regarder 20% de ce revenu de référence CDHR, donc le revenu fiscal de référence ajusté. Mmh. Et d'autre part, on va regarder le poids formé par l'impôt sur le revenu, qu'il soit calculé au barème progressif ou bien à un taux forfaitaire, notamment 12,8. On va aussi ajouter les prélèvements libératoires. Et puis, on va ajouter la CEHR. Et si ce total, en fait, on va le comparer au 20% du revenu fiscal de référence, et si on a une différence positive, en fait, entre ces 20% du revenu de référence et ce total d'imposition, eh bien, cette différence va représenter, en fait, cette contribution différentielle à devoir. Ça veut donc dire que les contribuables, en fait, dont le taux moyen d'imposition excède ces fameux 20%, ne déclencheront pas cette contribution différentielle sur les hauts revenus.
Bon, mais les prélèvements sociaux, eux, entre guillemets, sont bien dus.
Alors, ils resteront dus en plus. Ah alors, oui. Ça veut dire que si on prend un exemple pour une personne qui a, par exemple, un montant qui ne percevrait, par exemple, que des dividendes, soumis au 12,8 d'impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 12,8. Si on ajoute les 4, si on raisonne au niveau du taux marginal de la CEHR 4, ça nous fait 16,8. Pour aller jusqu'au 20, il nous faut bien cette fameuse contribution différentielle qui va être de 3,2. Avec tout ça, on aura bien les 20% et on va ajouter les prélèvements sociaux de 17,2, ce qui nous fait une imposition maximum de 37,2. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, cette contribution, elle a essentiellement pour objectif de viser les contribuables qui disposent exclusivement, en fait, de revenus financiers type dividendes ou plus-value, ou qui ont dans leur patrimoine une part prépondérante de ce type de revenus par rapport à leurs autres revenus qui seraient imposés au barème progressif, type salaire ou revenus fonciers. Et qu'inversement, ceux dont la proportion de revenus soumis au barème progressif, salaire, revenus fonciers, est importante en regard de ces revenus financiers, bah, eux, il y a moins de chances en fait, qu'ils déclenchent la CDHR parce qu'ils se il sera certainement acquis que le taux moyen d'imposition les concernant sera supérieur à ces 20%.
On essaye d'aider aussi les dirigeants d'entreprise ensemble ce matin. Est-ce qu'il y a des spécificités pour les plus-values, justement, des titres de société ?
Alors, oui, il y en a quelques-unes. Une qui est vraiment favorable aux contribuables, puisque je vous parlais tout à l'heure de ce revenu fiscal de référence. On va partir effectivement du revenu de référence que l'on va analyser pour les besoins de la CEHR et qui figure notamment dans son avis d'imposition. Et on va l'ajuster. Et notamment, on va faire des ajustements à la baisse. Notamment, si on a pu se prévaloir de l'abattement spécifique pour le dirigeant qui part en retraite et qui vend ses titres de 500 000 euros, il viendra en diminution du revenu à prendre en compte pour apprécier si on déclenche ou non la taxe. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et il y a un autre aspect qui sera aussi à creuser, qui pour le moment n'a pas donné lieu à des précisions de la part de l'administration fiscale.
Oui, parce qu'on rappelle que tout ça, c'est très neuf. Hein.
C'est très neuf, ça a tout juste un mois. C'est la notion de revenu exceptionnel. Parce qu'un revenu exceptionnel n'est pris dans les bases du revenu fiscal de référence CDHR que pour 25% de son montant, que pour le quart. Et la loi nous dit qu'un revenu exceptionnel, c'est un revenu qui n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement, dont le niveau en fait n'excède pas dont le niveau n'excède pas la moyenne des revenus annuels au titre desquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu sur les trois dernières années. Donc, il est possible que des plus-values finalement puissent constituer et caractériser un revenu exceptionnel dont on ne prendrait finalement que le quart, ce qui est plutôt intéressant.
Pour terminer, un petit mot du paiement de l'impôt, des obligations déclaratives, tout ça, il y a des changements ?
Oui, alors il y a des changements parce que tant pour l'impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux et la CEHR, finalement, on va rester sur des principes connus, c'est-à-dire une plus-value qui serait réalisée en 2025, ces trois impositions en fait seront recouvrées, le paiement sera assuré en 2026, donc un an plus tard. En revanche, pour la CDHR, ce qui va être quand même un sérieux sujet à considérer, la loi nous dit que les contribuables devront acquitter un acompte entre le 1er et le 15 décembre 2025 de 95% de son montant estimé. Ça veut donc dire que les contribuables, d'ici la fin de l'année, devront
provisionner,
être... Alors, provisionner, puis surtout être en capacité, déjà, d'avoir une vision précise des revenus acquis jusqu'à cette date-là, puis les revenus estimés du mois de décembre, pour pouvoir faire un calcul précis. Parce que s'il y a une erreur de plus de 20% par rapport au montant qui doit finalement être dû, ou bien s'il y a un retard ou un défaut de paiement, on s'expose quand même à une pénalité de 20%.
Donc,
les sanctions sont lourdes.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit en synthèse, Aurélie ?
Alors, en synthèse, on se dit que, effectivement, les réflexes n'ont pas changé, mais qu'il faut quand même se pencher sérieusement sur l'exigibilité éventuelle de cette fameuse contribution différentielle, sur le poids global de la fiscalité. Il va falloir, évidemment, comme d'habitude, procéder à un certain nombre de modélisations comparatives pour voir ce à quoi on va être assujetti. Donc ça, c'est une première chose. Être attentif aussi à la façon dont les textes pourront être commentés, précisés par l'administration fiscale.
Donc on va lire le BOFIP, quoi.
Notamment sur cette fameuse notion de revenu exceptionnel. Et puis, surtout aussi, de se dire que si on envisage des opérations préparatoires, qui conservent encore une fois toute leur pertinence, tout leur intérêt, il ne faut pas s'y prendre non plus trop tard. Les réflexes en la matière restent les mêmes. Mais c'est un autre sujet.
Et ça nous donnera l'occasion de nous revoir.
Avec plaisir.
Aurélie Alamijon, donc, est l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et vous le savez, régulièrement, on vous donne des idées d'investissement. Et c'est vrai que l'immobilier en France, quand on cause de patrimoine, est toujours très présent. On a coutume de dire que vous, les épargnants, vous avez un parpaing dans le ventre et que vous aimez l'immobilier. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas parler de maison, on ne va pas parler d'appartement, on ne va pas parler de commerce, on ne va pas parler de bureau. On accueille Olivier Brunet, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour Barnes, Propriété et Château. Et donc, je le disais en préambule tout à l'heure, en ouvrant l'émission, on va prendre quelques chemins de traverse. Et vous allez nous proposer trois types d'investissements, entre guillemets, immobiliers, qui sortent un peu de l'ordinaire, puisqu'on va parler château, on va parler vignoble et on va parler forêt. Alors d'abord, on commence peut-être par le château. Comment est-ce qu'on... Il faut être piqué un peu pour...
C'est avant tout un sujet de passion.
Ouais, c'est ça.
C'est d'abord la passion qui motive.
Hein,
on a tous grandi avec des histoires de princesses, mais aussi de chevaliers. Donc les garçons se voient comme des chevaliers, les filles comme des princesses. Et on a la chance d'être dans un pays qui compte plus de 40 000 châteaux. C'est cette diversité finalement qui nous aide et qui participe à cet élan sur ce marché qui est de plus en plus dynamique.
J'imagine qu'il y a quelques critères, quelques incontournables qu'il faut avoir en tête quand on se dit, tiens, allez, je vais essayer de faire rimer une passion naissante avec la réalité de mon patrimoine.
Alors, c'est une passion, donc c'est un caractère irrationnel. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, le rationnel revient en galop.
Oui.
Et là, on se pose les questions qui sont les questions classiques de l'immobilier. L'emplacement, et puis l'emplacement, mais avant tout, c'est d'abord l'état. L'état d'un château fait la différence. Quand on achète 300 mètres carrés à Paris, on sait pour combien on va en avoir en termes de travaux si c'est complètement à refaire.
Ouais. Et au pire, on aura un ravalement.
Et au pire, il y a le ravalement et on sait aussi à peu près ce que ça coûte dans un immeuble haussmannien. Bon. L'enjeu sur un château est tout à fait différent. L'approche, un château, d'abord pour avoir une définition de château remonte à des origines qui sont avant la Renaissance, donc des origines qui sont défensives, qui sont lointaines. Donc c'est souvent des maisons qui ont au moins 350-400 ans, qui tiennent encore debout et qui ont connu des vagues successives de travaux, plus ou moins bien orchestrées. Donc l'enjeu réellement, c'est l'état du château, l'état de conservation, la durée des travaux et le montant plus ou moins précis qu'on va être
oui, parce que
en capacité d'investir.
Souvent, le montant de départ n'est pas au regard souvent du côté prestigieux de l'objet, entre guillemets. Le montant de départ paraît parfois ridicule quand on regarde les petites annonces. On se dit, oh là, bah, c'est quand même pas cher, mais c'est tout le reste qui va...
C'est vrai que c'est souvent ce qu'on se dit, c'est pas cher. Il y a beaucoup de mètres carrés pour pas cher, mais il faut aussi voir ces mètres carrés comme une charge. Il y a le château, il y a les dépendances, il y a les communs, bien souvent une ferme, et c'est tout ça en fait qu'on s'engage à restaurer, à remettre sur pied pour ouvrir un nouveau chapitre finalement de l'histoire de ce château.
Cela étant dit, vous venez de prononcer le mot histoire, c'est donc historique, donc ça renvoie dans l'imaginaire de chacun un monument historique, un inventaire supplémentaire, enfin il y a des moyens de percevoir des aides, non ?
Bien sûr, bien sûr. La France a ça d'extraordinaire, il y a deux types de classements. Ça existe depuis 1913. C'est une niche. Les avocats n'aiment pas beaucoup, d'ailleurs, qu'on parle de niche, mais c'est un biais fiscal qui permet finalement de maintenir notre patrimoine et de le faire rentrer, période après période, dans une ère beaucoup plus actuelle. Le classement, et puis ensuite l'inscription, qui est arrivée un petit peu plus tard. Sous l'égide d'une DRAC, c'est une direction régionale des affaires culturelles, organisée avec des architectes des bâtiments de France qui vont faire le suivi individuellement de chacun des projets sur le secteur qu'ils ont dans leur giron. Et tout ça sous l'égide du ministère de la Culture.
Et c'est bien ou c'est pas bien ? Je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on a les oreilles qui traînent un peu dans le monde patrimonial, on a des gros fanas d'être monument historique et d'autres qui disent « Oh là là, moi je veux surtout pas, parce que sinon après, quand je veux changer une fenêtre, quand je veux faire ceci, quand je veux faire cela, je suis obligé de passer sous les fourches codines. »
Voilà, de l'ABF du coin. Y a deux écoles, il y a deux façons de voir les choses. Effectivement, on va trouver des pourfendeurs du dispositif monument historique qui, effectivement, vont se dire qu'à chaque clou qu'ils vont devoir planter, il va falloir obtenir l'agrément d'un ABF qui va envoyer son copain...
Architecte des bâtiments de France, un ABF.
Absolument, qui va planter le clou contre 100 euros. Bon, ces 100 euros seront, en général, subventionnés. Faut savoir, quand même, que les travaux qui font l'objet de la supervision des architectes des bâtiments de France sont des travaux patrimoniaux qui sont dans le but de conserver ou de restituer ou de reconquérir ce patrimoine qui s'est un petit peu abîmé, qui s'est défait au fil du temps. À côté de ça, il y a des gens qui sont tout à fait favorables à ce dispositif et qui savent faire rimer, finalement, une jouissance personnelle d'un château avec un dispositif monument historique.
Est-ce que ça peut être rentable ?
Oui, ça peut être rentable. C'est une question d'investissement à la base. C'est un peu comme un business plan de n'importe quel investissement. Dès lors qu'on le prend sous le prisme de l'investissement, un château qu'on veut convertir en hôtel, oui, peut devenir rentable. Va nécessiter des capex importants, une réflexion très importante, un accompagnement, naturellement, des architectes des bâtiments de France. Mais c'est des sujets qui sont évidemment potentiellement rentables. Il y a plusieurs manières d'ailleurs d'optimiser un château. Je parle d'un hôtel, c'est peut-être
le degré ultime.
Oui, voilà, presque. Le degré ultime, exactement. Ensuite, il y a des manières un peu plus nuancées en l'ouvrant au public pour des visites, s'il a un caractère historique qui peut attirer du monde, s'il y a des jardins qui sont pourquoi pas remarquables. L'étape d'après, les mariages.
Ouais,
beaucoup de châteaux organisent des mariages dans les annexes, dans les dépendances, dans les communs, des séminaires, reçoivent du public dans des effectifs contenus, sans être classés ERP, mais dans une configuration de chambre d'hôte. Absolument, ou de gîte.
Et ce marché, parce que vous rappeliez presque en propos liminaire que l'offre est potentiellement très grande dans notre pays, dans notre vieux pays, c'est un marché dynamique ou c'est un marché...
Ça fait 5 ans qu'on voit les transactions qui ont doublé de volume dans ce qui ressemble à ce qu'on appelle la définition du château. C'est-à-dire environ 40 000 bâtiments en France et on parle d'environ... 200 châteaux qui changent de main chaque année. Donc oui, c'est un marché qui, pour un marché de niche sur si peu finalement d'actifs immobiliers, il y a un taux de transfert qui est, mine de rien, assez important.
Voilà donc pour le château. On a dit deux autres actifs qu'on va évoquer aujourd'hui, le vignoble. Alors là, effectivement, certains s'intéressant au patrimoine ont peut-être déjà entendu parler de la possibilité d'investir dans du vignoble, j'ai envie de dire presque papier. Mais de quoi on parle, nous, là? On parle justement de ces fameuses GFV, de ceci, de cela, ou on parle de s'acheter vraiment un vignoble? Parce que là, il faut quand même des connaissances, quoi.
Il faut des connaissances, il faut être accompagné, c'est finalement à ça qu'on sert, on prend les clients par la main et on les emmène. On essaie avant tout de définir ce qu'ils cherchent. Beaucoup de clients viennent nous voir en nous disant « je rêve d'un vignoble ». Mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est.
C'est ça.
Un vignoble, c'est un véritable business. Alors, il y a des manières plus ou moins engagées de devenir propriétaire d'un vignoble ou plus ou moins accompagné. D'abord, il faut définir une zone géographique. Ça, c'est la première chose. Tickets d'entrée, que ce soit en Champagne ou en Bourgogne, aujourd'hui sont réservés pratiquement à un public de professionnels. Oui. Il n'y a que des professionnels. Ce dont nous parlons, plutôt orienté sur le Bordelais, le Rhône, la Loire, la Provence, évidemment le Languedoc-Roussillon, il y a des propriétés accessibles à des prix qui sont relativement tenus par rapport au reste du marché.
Mais, enfin, bon, oui, ça fait rêver avoir son propre vin et ceci, cela, mais enfin, ça reste quand même de l'agriculture, c'est quand même réglementé. On ne s'improvise pas vigneron, si ?
Ah non, on ne s'improvise pas vigneron. Pour être vigneron, il faut savoir ce qu'on fait. Ouais. Donc là, plusieurs schémas. On a souvent des entrepreneurs qui, après une exit réussie, se disent « Eh tiens, si j'achetais un vignoble ?» Et à ce moment-là, s'entourent. Donc on s'entoure avec... Bah, finalement, les compétences qui permettent de réunir les deux métiers qui recomposent le métier de viticulteur. D'abord, le travail agricole, comme vous l'évoquiez, mais aussi le travail de commercialisation. Et celui-là, on l'oublie un petit peu. Et pourtant, il est essentiel, savoir vendre son vin, commercialiser son vin. Une fois qu'on sait le fabriquer, il faut être capable de le vendre. Et là, c'est les enjeux du moment.
Et alors, généralement, vos clients, ils achètent un domaine, entre guillemets, tout seul comme les grands. Enfin, accompagné par vous, mais tout seul comme des grands, où ils vont tout prendre en charge en ayant éventuellement les qualifications, ou au contraire, est-ce qu'ils se disent « Bon bah, ouais, j'ai les moyens, mais j'ai pas le savoir, j'ai pas la connaissance, peut-être il faut que je rentre en tant que partenaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, accompagné, pris dans la main, en bisous, enfin, je sais pas. »
Deux catégories, Cédric. Les professionnels, sur les régions que j'évoquais plus tôt, la Champagne, la Bourgogne, 100% professionnels. Ils connaissent le business par cœur. Le sous-jacent immobilier est pratiquement anecdotique dans les prix. En revanche, dès qu'on arrive dans des régions plus au sud, je pense à la Provence, Languedoc-Roussillon, on voit des propriétés qui sont vraiment l'archétype classique quand on pense à une propriété viticole, c'est-à-dire la très belle maison entourée par les vignes, un peu d'arbres, enfin quelque chose de très chouette. Là, il y a une approche qui est mixte. D'abord, c'est profiter d'une maison dans le sud, avec un climat agréable, favorable, et être capable de produire son vin. Et là-dessus, les clients, souvent, sont accompagnés. Donc, il y a le système de la coopérative du coin,
qui va
gérer, bon, voilà, s'occuper des vignes, s'occuper de la commercialisation, il n'y a pratiquement rien à faire. Il y a le système de l'autonomie totale, où on va laisser un de ses enfants qui va se professionnaliser parce qu'il se passionne, et puis finalement devenir viticulteur. Ou alors des systèmes intermédiaires où on donne des baux à des agriculteurs, des viticulteurs de la région. On fait venir en sous-traitance des professionnels, des experts sur la vinification, sur les assemblages, les œnologues et les sommeliers à la fin pour tester et accompagner les ventes.
Et vos clients, qui sont-ils? Des Français, des étrangers? Parce qu'on sait que le vignoble français intéresse énormément les étrangers.
50-50. Les étrangers s'intéressent beaucoup, contrairement aux Français, au Bordelais en ce moment. Donc ça nous réjouit. On est capable d'accompagner des investisseurs étrangers à Bordeaux en ce moment. Quand les Français, eux, sont un petit peu plus timorés pour cette région. À côté de ça, on a beaucoup de professionnels du vin qui s'orientent sur les régions les plus classiques et qui ont des recherches extrêmement précises et extrêmement sélectives sur l'AOP et l'AOC du vignoble qu'ils cherchent à acheter.
Allez, on termine notre voyage entre guillemets immobilier par la forêt. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet investissement-là ? Pourquoi est-ce que c'est prisé ? Là aussi, il y a diverses formules.
Oui, bah, c'est l'investissement bonne conscience.
c'est l'investissement vert.
C'est vert. Et en plus, bah, vous le savez, c'est fiscalement intéressant et par rapport à son IFI et par rapport à la transmission. Donc, c'est vraiment un investissement en ce moment qui a le vent en poupe.
Mais là, c'est hyper long.
Mais c'est hyper long. C'est quand on a un rapport au temps qui est du temps long.
C'est
on
ça.
On parle de temps hein long pour la viticulture.
Là, c'est pas du day trading, hein.
On parle de temps long pour les châteaux. On parle de temps long. On ne sera propriétaire qu'un petit chapitre de l'histoire de la vie de ces biens immobiliers. Une forêt, si on peut traiter ça de bien immobilier, c'est un peu la même chose. On en sera propriétaire une période certaine. Mais c'est un rendement qui est durable. C'est un rendement qui est récurrent, qui est régulier. Et je pense que ça rassure. Aujourd'hui, la valorisation du bois, finalement, et de toute cette filière, permet d'avoir des rentabilités qui sont intéressantes.
Non, mais on glosait il y a quelques minutes sur l'idée de faire son vin. Bon, je vais faire un gros raccourci. Il suffit de faire pousser du raisin, de le presser, de le mettre dans une bouteille, enfin de le faire vieillir et de le mettre dans une bouteille. Personne va tout de suite y arriver du premier coup, mais on peut espérer. Là, s'attaquer à une forêt de chênes, de savoir la faire grandir, la nettoyer, la protéger des maladies. Enfin, c'est un vrai diplôme.
Mais bien sûr, c'est un vrai métier. Et heureusement, il y a toute une filière, il y a tout un écosystème autour du business aujourd'hui de la forêt qui existe. Des experts d'abord, qui vont valoriser la forêt, qui vont arpenter et donner des avis sur l'état sanitaire. Ensuite, des gestionnaires qui vont, eux, opérer la forêt. Vous parliez de la nettoyer. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir les bûcherons, finalement, qui sont l'extension du travail du gestionnaire. Et tout ça est encadré dans ce qu'on appelle un plan simple de gestion. Un plan simple de gestion, c'est une obligation française qui prévoit, à partir de 10 hectares de forêt, d'avoir un engagement sur une période de 30 ans sur la gestion effective de toute sa parcelle forestière. C'est-à-dire, on va dire, les peupliers vont avoir une durée de vie de 20 ans. Dans 20 ans, on va récolter 7 parcelles de peupliers. Les gros chênes, on va pas y toucher. On va faire des éclaircies. Et puis, dans d'autres massifs, des coupes sélectives. Et c'est ainsi, en fait, qu'on gère les forêts, mais accompagné par des professionnels, systématiquement.
J'imagine que les prix sont pas les mêmes si on a justement du peuplier qui pousse en 20 ans, des chênes qui poussent en 400 ans, des sapins qui poussent
évidemment
en une quinzaine d'années. Enfin voilà, j'imagine que les essences. Comment se font les prix ? Et puis pareil, enfin une forêt, c'est quoi ? C'est un bosquet ou c'est des centaines d'hectares ? C'est pas le même prix.
C'est difficile de donner une définition par rapport à une surface. En revanche. Ce qu'on peut dire, c'est que la valeur des forêts dépend évidemment de l'espèce et du secteur dans lequel elle pousse. Évidemment, une forêt de chêne en forêt de troncée plantée par Colbert il y a quelques siècles, alors qu'il se disait on va avoir besoin de bateaux pour aller explorer le monde. Ces arbres n'ont pas été coupés. Et une forêt de peupliers ou alors de pins dans les Landes qui ont des croissances hyper rapides pour faire
des boîtes de
papier, des boîtes de camembert, enfin. Une filière qui est intéressante, mais qui n'a pas le même besoin que les charpentes de Notre-Dame, la tonnellerie pour les grands crus de Bourgogne. C'est des approches qui sont différentes. Pour vous donner des chiffres, on parle d'un hectare de forêt qui peut être valorisé dans les plus belles forêts avec les plus beaux chênes entre 50 et 70 000 euros de l'hectare. Un hectare de taillis ou de futaie sans trop d'intérêt qui va être à 2-3 000 euros.
Merci beaucoup de nous avoir emmenés dans toutes ces facettes de ces quelques actifs immobiliers, châteaux, vignes.